Alors bon, peut-être qu'on va passer maintenant à la rubrique d'Olivier
Morel.
Oui, mmh.
Voilà, alors les chroniques de l'Amérique trumpienne ou chroniques de l'Untrumpie. Alors la chronique d'aujourd'hui, c'est la constitution des États-Unis est-elle menacée ? Au-delà des mesures et déclarations effectuées par Donald Trump au fil des jours, on découvre des pratiques dont il n'a pas d'équivalence dans l'histoire de la démocratie américaine telle qu'elle avait été imaginée à la fin du XVIIIe siècle par les fondateurs de la République américaine. Le mot de République avait en effet un sens fort pour ceux qui l'ont constitué en l'Amérique qu'on connaît. À l'époque, c'était que des monarchies qu'il y avait. Donc,
oui, bien sûr.
C'était nouveau. Voilà. La chronique de cette semaine s'intéresse particulièrement à ce qui se trame derrière les gestes effectués par Donald Trump et ses soutiens depuis le 20 janvier. Mmh. Une attaque contre le droit. Et particulièrement contre les bases de ce qui a constitué la démocratie américaine. Et ce que propose l'universitaire franco-américain Olivier Morel, qui habite aux États-Unis, qui est en première ligne, dans sa chronique, une crainte.
Comment Trump et ses séides essaient
de renforcer son pouvoir personnel, oui, une hyper-présidentialisation sans garde-fou.
Voilà.
Bon, on va écouter les chroniques d'Olivier Morel sur Radio Galère.
Faisons ces chroniques américaines. Nous nous sommes beaucoup penchés sur le paysage idéologique de Donald Trump, qui maintenant est 47e président des États-Unis. Alors ces jours-ci, je me suis beaucoup souvenu d'une chronique que j'avais proposée et qui concernait la dénégation, c'est-à-dire le refus de Donald Trump d'admettre que cet énorme volume d'idées et de programmes contenus dans ce qui est connu au moment de la candidature de Trump sous le nom de Project 2025, ça veut dire en français le projet 2025, cette espèce d'agencement d'intellectuels du Trumpisme, puisqu'il y en a, d'idéologues, de cerveaux qui ont littéralement construit un programme pour la seconde présidence de Trump. J'ai beaucoup pensé donc aux grandes lignes de ce que j'avais dégagé de ce fameux projet 2025 et à la manière dont un Donald Trump qui s'était méfié de ce projet parce qu'il était en vérité radical et qui proposait des choses dont la nature, je l'ai dit plusieurs fois, est disruptive, c'est-à-dire qu'il y a cette méthode de travail qui domine chez quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, ou Jeff Bezos, qui consiste à entrer sur un marché avec des outils assez traditionnels, non pas pour vendre mieux que les autres, mais pour détruire le champ, afin de le reconstruire à sa manière et de pouvoir proposer sur le nouveau marché ainsi reconstruit des produits qui appartiennent aux destructeurs de ce champ et de ce marché. C'est ça la disruption. Alors, le projet 2025 était tellement disruptif, puisque c'est maintenant un mot à la mode, la disruption, l'adjectif disruptif, que Donald Trump avait pris ses distances. Il se trouve que maintenant, de nombreuses voix s'expriment pour dire qu'il faudrait vraiment relire avec attention les 987 pages du projet 2025, parce que c'est en réalité ce que l'équipe, le groupe, j'allais dire presque la horde ou la communauté autour de Donald Trump est en train de mettre en place aujourd'hui et au-delà. Et c'est ça le titre de la chronique aujourd'hui, c'est « Et au-delà ». Parce que si on s'intéresse au projet 2025, à ce que j'en disais il y a quelques mois, eh bien, on peut constater qu'il y a même un au-delà de la radicalité contenue dans ce projet. Alors, quel est cet au-delà ? C'est le thème de cette chronique, 3 semaines après l'investiture de Donald Trump qui a eu lieu le 20 janvier dernier. Alors pourquoi au-delà ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à 2 choses. D'abord, il y a la logique de tout ce qui fait la une des journaux aux États-Unis et aussi un peu de la presse internationale, y compris la France, à savoir les mesures, toutes plus radicales les unes que les autres, ainsi que les déclarations faites par Donald Trump et le groupe qui constitue sa présidence. Et je dis bien le groupe qui constitue sa présidence parce que on est déjà dans la question de l'au-delà, quand je formule les choses ainsi, qui m'intéresse ici. À savoir que on ne pourrait pas dire de façon traditionnelle qu'il s'agit d'un gouvernement. Il s'agit d'un groupe. Il s'agit même pas d'ailleurs d'une équipe, puisqu'il y a une certaine cacophonie dans cette équipe. Alors un exemple de ça, bien sûr, c'est la figure de Elon Musk, dont il est beaucoup plus question et presque autant question que du président des États-Unis lui-même, et dont il est plus question que du vice-président des États-Unis, par exemple, qui prononce le nom de J.D. Vance, c'est-à-dire le vice-président des États-Unis actuellement. Ah bah pas grand monde, en fait. Qui parle des parlementaires du Congrès qui sont élus et qui ont gagné les élections à l'issue du scrutin du mois de novembre 2024, pas grand monde en vérité. Non, on parle énormément de Elon Musk. Et on parle de Elon Musk parce que, et j'y ai consacré de nombreuses chroniques, parce que son approche de la disruption est ce qu'il est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, depuis quelques jours, dans l'accès sans équivalent historique que M. Musk a obtenu des bureaux, des ordinateurs, des lieux qui sont des lieux fondamentaux, sacrés presque, à l'intérieur de tout régime politique quel qu'il soit, à savoir par exemple l'administration fiscale. Ceci a été noté, ça a été dit, et bien sûr c'est apparu dans les journaux. M. Musk est à la tête d'un groupe, et je dis encore un groupe parce qu'on ne peut pas le qualifier autrement. C'est une espèce de formation indéfinie d'individus dont on ignore précisément les identités et les fonctions. On a quelques noms qui ont circulé, quelques profils qui ont circulé. Il y a par exemple dans ce groupe de très jeunes hommes en général. Le plus jeune a 19 ans, le nom et l'identité d'un autre a circulé, il a 25 ans. Bref, ce sont des hommes de main en quelque sorte, on pourrait les appeler ainsi, de M. Musk, qui sont issus, après avoir travaillé dans diverses positions ultra-technologiques tous, plus ou moins pour ce qu'on sait. Pour M. Musk à SpaceX, son agence de la conquête spatiale par exemple. Bref, ce sont des jeunes hommes apparemment doués pour l'informatique, qui maîtrisent les outils de l'intelligence artificielle, et qui se promènent, qui le week-end dernier même était évoqué par Elon Musk lui-même, parce que le week-end passé a été un de ces moments où Elon Musk s'est même glorifié d'avoir eu accès à tous ses bureaux en l'absence des employés fédéraux, encore une fois, notamment de l'administration fiscale américaine et des institutions qui sont en charge du budget américain. Alors, l'administration qui a été créée par M. Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche s'appelle le DOGE, c'est-à-dire le D-O-G-E. C'est-à-dire, c'est une agence qui est en charge de, officiellement, de mettre en œuvre la réduction des coûts afférents aux dépenses gouvernementales. Bref, en gros, le budget de l'État américain, qui est de plusieurs trillions de dollars, c'est-à-dire plusieurs milliards, plusieurs milliers de milliards de dollars. Le but affiché de Donald Trump dans la mise en place de cette institution, de cette nouvelle institution, était, je cite, de démanteler la bureaucratie gouvernementale, d'éradiquer les régulations, les règles excessives qui régissent le gouvernement. Et, je souligne ceci, de se débarrasser des dépenses inutiles afin de restructurer les agences gouvernementales. Fin de citation. Alors, M. Musk a accédé à ses ordinateurs, à ses archives donc, à ses bureaux, sans véritablement avoir un motif légal explicite, donc sans une véritable autorité et sans un véritable contrôle, notamment parlementaire. C'est le pouvoir exécutif qui s'est imposé en la matière, et les parlementaires, qui sont à majorité des élus fidèles à M. Trump, n'ont évidemment pas levé un sourcil face à ce que les commentateurs considèrent comme une grave ingérence dans le système gouvernemental, au cœur du système gouvernemental. Un des aspects de cette ingérence, c'est que, en principe, pour avoir accès aux dossiers fiscaux d'individus dans un pays comme les États-Unis, Il faut un mandat légal pour le faire. C'est-à-dire, par exemple, un pouvoir d'investigation, qu'il soit policier ou autre. Ce dont M. Musk n'est pas prémuni lorsqu'il effectue cette opération. Il y a d'ailleurs une plainte légale devant les tribunaux qui proteste contre la violation des lois sur la vie privée que contient cette attaque de M. Musk et donc de la présidence Trump contre l'administration fédérale. Alors ça, c'est très important parce que c'est ça le thème de la chronique. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de la mise en œuvre d'une politique au sens traditionnel, à quoi nous assistons, mais d'une procédure qui se place en dehors de droits fondamentaux qui sont au cœur de l'institution et au cœur même de la Constitution des États-Unis. Et quand je dis Constitution des États-Unis, je ne pense pas seulement à la Constitution comme document légal, mais l'acte qui a constitué les États-Unis. Alors revenons à l'importance de ce verbe, qu'est-ce que c'est que constituer une république ? Alors, des juristes, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y aura une dimension légale très importante dans cette chronique aujourd'hui. Des juristes se sont alarmés avant l'arrivée de M. Trump et depuis quelques jours de surcroît par le fait que, précisément, il est mis en place aujourd'hui par l'administration de M. Trump des décisions qui ont la forme de décrets qui ont pour caractéristique de non seulement mettre en œuvre une politique, mais de mettre en œuvre une politique qui met en danger ou conteste les fondements de la mise en œuvre même de cette politique. Alors je vais expliquer bien sûr cela. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs jours ? Depuis plusieurs jours, nous avons une série de décisions exécutives, donc de décrets pris par Donald Trump, qui par exemple visent à changer ce qu'on appelle le Ius soli en droit romain, c'est-à-dire le fait d'être né quelque part et que ça détermine l'appartenance citoyenne du nouveau-né et du futur adulte. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle le droit du sol. Monsieur Trump veut mettre en cause le droit du sol, donc c'est une attaque contre le droit. De la même manière, une illustration de ceci, et tout le monde l'a en mémoire, bien sûr, quand Monsieur Trump dit qu'il veut transformer Gaza en Côte d'Azur et que pour ce faire, il sera nécessaire de remove, c'est-à-dire d'ôter en anglais, c'est-à-dire de déplacer, c'est-à-dire en vérité d'arrêter, de coffrer, de rafler et de transporter. Ça s'appelle un transfert de population en droit international, 1 700 000 Gazaouis. Avec une nonchalance et une désinvolture dont M. Trump a le secret, il annonce ceci en pleine conférence de presse lors de la visite officielle du responsable du pouvoir exécutif israélien, M. Benjamin Netanyahu. Donc c'est une décision qui, en droit, et là encore c'est une question de droit, comme la mise en cause du droit du sol, c'est une décision qui en vérité aurait le statut, en droit international, c'est pas moi qui déclare ça, c'est le droit international. Aux yeux du droit international, qu'est-ce qu'un transfert forcé de population ? C'est un crime contre l'humanité. Donc il annonce en conférence de presse qu'il est tout disposé à perpétrer un crime contre l'humanité. La même chose vaut pour les actions prise par décret également de M. Trump contre les droits de douane. Et je répète le mot encore, les droits de douane. M. Trump, comme on le sait, remet en cause des droits qui sont hérités de la période des droits sociaux. C'est le droit. Qu'est-ce que c'est le droit ? Le droit, ce sont des règles qui sont dans une république, comme le sont les États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution française d'ailleurs. Le droit, ce sont des règles qui sont discutées, élaborées, rédigées et votées par des représentantes et par des représentants du peuple. Donc c'est la voix du peuple qu'on met en cause quand on met en cause le droit dans une république. Eh bien, un des angles de l'action gouvernementale de M. Trump, et on devrait dire de l'action exécutive de M. Trump, est-ce que c'est du gouvernement ? On verra dans un instant. Est-ce que ça appartient au droit et au droit républicain au sens de la République ? On le verra dans un instant. Mais en tout cas, là, il y a une mise en place, destruction systématique, ça a été rapporté, de toutes les règles qui sont construites à l'intérieur du système légal américain et qui permettent de promouvoir l'égalité entre les minorités, la représentation des minorités, qui permettent de promouvoir les limitations contre les discriminations. Tout ce qu'on appelle en français la discrimination positive, c'est en place depuis les droits sociaux et ça a permis à des groupes entiers de population issues des minorités américaines d'accéder à des fonctions dont elles étaient sociologiquement, culturellement et aussi légalement barrées avant les droits sociaux, c'est-à-dire avant 1965. 1965 étant la date à partir de laquelle les États-Unis deviennent une vraie démocratie, où les Noirs ont aussi le droit de voter. Donc, des milliers de pages, 8000 pages, de droits, de régulations, permettant ce qu'on appelle « diversity, equity and inclusion », c'est-à-dire toutes les lois permettant l'affirmation des droits des minorités, je reviens encore sur le mot de droit, ont été annulées et détruites, c'est une opération de destruction, dès les heures qui ont suivi l'installation de M. Trump et de son groupe à la tête de l'État américain. On pourrait souligner, on pourrait revenir là-dessus, que ceci est aussi une forme de racisme, puisque lorsque l'accident qui a été le résultat d'une collision entre un hélicoptère et un avion de ligne le 29 janvier à Washington DC, lorsque cet accident a lieu, une des premières choses que M. Trump et les voix autour de lui ont exprimées, avant même, ou en diminuant, n'est-ce pas, les expressions de compassion pour les victimes et leurs familles, les propos qui étaient tenus par Donald Trump et ses fans et son groupe consistaient à dire que l'accident avait eu lieu parce qu'il y avait des lois qui promouvaient, qui soutenaient l'entrée des minorités, l'accès des minorités aux positions, au travail, dans les institutions fédérales. En l'occurrence, il s'agissait de l'administration fédérale qui régule le trafic aérien. En d'autres termes, leur propos consistait à dire « il y a eu cet accident d'avion parce qu'il y a des droits qui promeuvent des gens qui sont embauchés, non pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils sont membres d'une communauté, membres d'une minorité ». Ça définit le racisme. Cette attitude et ces propos qui consistent à dire que les employés sont incompétents parce qu'ils sont liés à une appartenance ethnique. C'était le discours officiel de Donald Trump et de ses alliés au soir de cet accident d'avion. Que les régulateurs du trafic aérien n'étaient pas compétents pour faire leur travail parce qu'ils avaient été embauchés à cause de la couleur de leur peau et non pas à cause de leurs compétences. De nombreux soutiens de Donald Trump l'ont dit explicitement avant et après cet accident et l'ont dit pour soutenir la destruction des droits civiques qui sont en place dans le système législatif américain. Cela a été fait sans le contrôle d'aucun vote à l'intérieur du Parlement. Ce sont des décrets qui ont permis ceci. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important parce que nous parlons ici du droit. Il s'agit d'une attaque contre le droit. Il s'agit d'une attaque contre le droit qui est perpétrée à la suite de décrets qui ouvrent une séquence historique qui est entièrement nouvelle dans l'histoire des États-Unis. Alors, qu'elle soit nouvelle ne veut pas dire qu'elle a été complètement occultée, ignorée et qu'elle n'a pas été anticipée. En fait, il y a une voie très importante dans l'histoire de l'élaboration des institutions américaines à la fin du XVIIIe siècle, autour de 1787 pour être plus précis, une voie très importante qui s'est exprimée pour dire « Attention, 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 rédacteur de la Constitution américaine ». On est en train d'écrire une constitution qui donne un pouvoir très important à un chef de l'exécutif. C'est le président des États-Unis. Et cette voix disait, on a peut-être pris un risque en donnant un pouvoir à ce chef de l'exécutif, c'est-à-dire au président des États-Unis en tant que chef des armées, comme quelqu'un qui peut signer des traités, accorder des pardons, quelqu'un qui a un certain pouvoir législatif, celui d'écrire des décrets et de les faire passer sans contrôle parlementaire, sauf à ce que le Parlement se réunisse dans une majorité extrême, c'est-à-dire les deux tiers, pour casser ces décrets. Et donc, ce rédacteur, ce concepteur, ce constituant de la République américaine à la fin du XVIIIe siècle disait également « Attention, parce qu'on risque d'avoir un autocrate un jour ou l'autre qui prendra le pouvoir à l'intérieur du système et qui utilisera les pouvoirs présidentiels de façon immorale. Qui est l'homme qui avait émis ses réserves sur la présidence des États-Unis telle qu'elle apparaissait dans la nouvelle constitution américaine? C'est George Washington lui-même. C'est l'homme qui a donné son nom à la capitale des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il fut le premier président des États-Unis. Il ne tenait qu'à lui d'instiller, de créer une coutume qui allait précisément aussi montrer l'éthique du président des États-Unis dans l'esprit, dans une interprétation de la lettre de la Constitution. Qu'est-ce que fait George Washington, par exemple ? Il va quitter le pouvoir après son second mandat. Et il va instaurer là une tradition que Donald Trump lui-même a évoquée comme n'étant pas une nécessité absolue. Encore une attaque contre le droit, et là, c'est le droit constitutionnel. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici pour conclure ? Ben, on est en train de dire deux choses. On est en train de dire que il fut une époque, après les annonces et les alertes de George Washington, où la démocratie américaine a tremblé sur ses bases. Cette époque, elle n'est pas si lointaine. C'est celle qui a vu l'apparition, en tout cas au XXe siècle. On pourrait parler d'un autre président des États-Unis que M. Trump adore, bah, d'ailleurs, mais on y reviendra plus tard. Dans le président du XXe siècle, assez récent, qui a fait trembler sur ses bases la République américaine, la République, c'est-à-dire Res Publica, n'est-ce pas ? Pour George Washington, les États-Unis et pour les constituants du XVIIIe siècle, il s'agit d'établir une république. On regarde le droit romain, on pense à la démocratie athénienne, et on sait que les lois sont des lois et qu'elles peuvent toujours être subverties par des individus. Donc on met des régulations autant que possible, c'est ça la constitution de la République, pour empêcher les abus de pouvoir. Donc il y a eu un moment où, dans l'histoire des États-Unis récente, un président peu scrupuleux a commis des actes dont il savait pertinemment qu'ils étaient inacceptables. Et ce président, c'était Nixon. Seulement, il y a une différence entre Gerald Nixon et le président des États-Unis aujourd'hui, Donald Trump, c'est que Nixon savait très bien qu'il avait poussé les limites de la présidence américaine en faisant des choses qui vont conduire au Watergate et qui vont le conduire à démissionner. Il va perdre le pouvoir dès que ses malfaisances vont être dévoilées au grand jour. Et il ne va pas perdre le pouvoir parce que ses malfaisances ont été dévoilées au grand jour, parce que la presse les a révélées dans le scandale du Watergate. Non, c'est parce que son propre parti politique a fini par le désavouer. Or, cette chose ne s'est pas produite sous Donald Trump. Donald Trump a exigé le loyalisme au cours de sa première présidence, il exige maintenant la soumission. Donc Donald Trump est différent parce qu'il est sans scrupules et qu'il agit à ciel ouvert et qu'il n'y a pas d'opposition. Or, ça serait suffisamment grave si Donald Trump n'était pas en train de s'attaquer au droit, c'est-à-dire au fondement de cette fameuse République américaine, de ce qui a constitué les États-Unis comme une République au XVIIIe siècle. Il y avait, au XVIIIe siècle, dans l'esprit des constituants, il y avait bien sûr un Parlement, c'est-à-dire un pouvoir législatif, qui pouvait contrebalancer les abus de pouvoir d'un président. Mais il y avait aussi un système judiciaire. Et à la tête de ce système judiciaire, il y a la Cour suprême des États-Unis, qui a le pouvoir de dire au président, indépendamment de l'avis du Parlement et du peuple même, et quelquefois contre le peuple, la Cour suprême a le droit de dire « la Constitution ne peut être violée ». C'est pas contre le peuple, c'est contre la Constitution, là. C'est-à-dire les parlementaires élus, hein, le peuple. La Constitution des États-Unis, c'est-à-dire les fondateurs de la République, c'est-à-dire les fondements de la République, ne peuvent pas être violés. La Cour suprême a ce pouvoir-là. C'est le pouvoir de judicial power. Le pouvoir de la branche judiciaire. Alors maintenant, j'ose dire que il y a un risque que les fondements de la démocratie, c'est-à-dire du droit américain, c'est-à-dire la Constitution américaine, soient attaqués par cette multitude d'attaques contre le droit, y compris le droit international, dans les déclarations que M. Trump fait sur le transfert de la totalité du peuple palestinien vivant sur sa propre terre à Gaza, c'est une attaque contre le droit international. Il y a des traités internationaux et il y a aussi ce qu'on appelle un Bill of Rights, c'est-à-dire c'est une attaque contre les droits et les libertés individuelles d'un peuple, certes non américain, mais ça s'applique aussi aux États-Unis. Parce que dans l'affaire de l'attaque que M. Musk est en train de perpétrer contre, par exemple, les dossiers fiscaux des individus vivant aux États-Unis, il y a une attaque contre les droits et libertés individuelles. On verra ce que disent les tribunaux, mais il y a des chances que ça soit reconnu comme une attaque contre le Bill of Rights, c'est-à-dire une portion de la Constitution des États-Unis. Donc le risque, il est le suivant, et je vais conclure là-dessus. Le risque, c'est la Cour suprême. En fait, le dernier rempart maintenant, c'est la Cour suprême. C'est pas les juges qui ont joué un rôle considérable au cours de la première présidence de Trump. On pense maintenant que la Cour suprême est le dernier rempart. Que va-t-il se passer? Que pourrait-il arriver si la Cour suprême des États-Unis faisait fi du droit constitutionnel et favorisait Trump? Et l'inverse, que se passerait-il si M. Trump faisait fi des décisions, des avis de la Cour suprême des États-Unis? Il y a un au-delà à tout cela. Et quel est cet au-delà?
California, my sweet home, Chicago.